podcast.com. Essaye ça.
Hey, salut. Salut, c'est moi. Je suis dans l'univers de Zoom où tout ce que je dis est écouté par des Chinois. Mais je suis quand même Tommy Godette, animateur professionnel et motivé à la barre de Terrain Basique, le plus québécois des podcasts sur Magic the Gathering. Aujourd'hui, on a des invités qui sont un petit peu moins québécois, mais je pense pas que ça va rendre l'ensemble moins québécois. Très content de rajouter de la variété. On a Alvar et Anthony de Magic, c'est chic. Et puis, ben, on a sorti notre sphinx. Hein? Salut, Jason!
Hey, bien bonjour. On a de la visite de l'autre bord de l'océan aujourd'hui.
C'est capoté, ça. Hein? C'est bien fait, les affaires. On est en train de parler avec Alvar et Anthony en direct de l'Hexagone. Présentez-vous, les gars, dans l'ordre que ça vous tente.
Oh, salut non, tout le monde.
Hein? Attends un petit peu, j'ai oublié de mentionner que vous avez choisi la trame sonore de Megaman X en background. C'est même Anthony qui l'a choisi. Peut-être que tu peux me parler de ça en commençant.
Ben oui, bien sûr. Salut Tommy, salut Jason. Merci de nous recevoir dans ce magnifique podcast Terrain Basique. On est hyper content d'être là. Je parle un petit peu pour Alvar. D'ailleurs, Alvar, excuse-moi, j'ai choisi la BO du podcast ce soir sans te concerter. J'espère que tu ne m'en voudras pas trop. Mais oui, écoutez, Tony et Alvar, les deux compères de Magic C'est Chic, un podcast français, francophone, et qui dure maintenant depuis 4 ans. Qu'est-ce que t'en penses, Alvar? Tu es content de notre chaîne YouTube?
Ah bah oui, j'en suis très content, je dirais même, enfin j'appuierais même sur le francophone, hein, parce que c'est ouvert à nos amis canadiens, bien entendu. Ouais, ça fait donc 4 ans qu'on a lancé la chaîne YouTube, je sais pas si vous voulez qu'on revienne un peu sur notre parcours.
Oh, mais... Oui, certain, c'est... vous vous êtes rencontrés où? Ça vient d'où ce projet-là?
Alors, en fait, c'est un ami à nous, à la base, qui nous a mis en contact. Il m'a dit, bah, il y a quelqu'un qui est le copain d'une amie à moi qui joue à Magic. Donc, bah, très vite, forcément, on s'est fait une soirée, on a joué à Magic et on a hyper matché. Et surtout, Tony s'est rendu compte que, au fur et à mesure du temps, bah, j'étais un peu bloqué sur Magic. J'en parlais beaucoup. On s'est fait une conversation Facebook où on se donnait un peu les news vis-à-vis du jeu, tout ça. D'ailleurs, on ne savait pas comment appeler la conversation. Au bout d'un moment, on n'allait pas laisser les noms de tout le monde. Donc, on a mis Magic, c'est chic. Voilà, appelé comme ça. Et puis, à force de relayer les news à chaque fois dans la conv, je crois qu'il y a un peu une idée qui a popé dans l'esprit de Tony. C'est de lancer un peu une chaîne YouTube dédiée à l'actualité du jeu qu'on aimait tant. Et c'est vrai que sur ce créneau-là, à l'époque, bah mine de rien, même si YouTube était déjà forcément très développé dans pas mal d'univers, pour Magic, surtout dans la communauté francophone, c'était assez calme à ce niveau-là.
Et d'ailleurs, coup, c'était un podcast même à la base, hein, l'idée, l'idée voilà. De départ, c'était un podcast, ouais.
Mais après, il y a Terrain Basique qui est arrivé et là, on a abandonné. On a dit la concurrence est trop forte.
Non, mais je vous écoutais avant. Là, je veux dire, on a pris notre inspiration à quelque part. J'avais remarqué très tôt que vous aviez des vidéos sur le lore, les histoires de Magic. Nous, c'était un peu notre idée de base à moi et Tommy. De oui. Dire, hey, ça faudrait faire un. Parce que Tommy, tu sais, on jouait à Magic puis j'arrêtais pas de parler. Là, puis à un moment donné, il a dit comme. J'y décrivais l'histoire derrière la 2-2 vanille que je venais de placer. Là. Puis Tommy a dit « Hey, on devrait faire un podcast. » Puis c'est comme ça que c'est lancé. Puis, vous m'excuserez. Là, je vais faire mes excuses ici. Là. Je vous spamme souvent sur Twitter pour avoir des retweets. Je suis Jason Vortos sur Twitter là, quand je publie les épisodes.
C'est puis, avec plaisir.
Ça a bien fonctionné parce que soudainement, on s'est mis à avoir des auditeurs francophones. Puis, pour nos auditeurs à nous qui ne vous connaissent pas, je vais faire un share screen. Ah, t'as disable le screen sharing.
Il faut que j'aille gosser là-dedans.
Ouais, il va gosser là-dedans pendant que je parle. Moi, je vous conseille fortement de vous abonner sur leur chaîne YouTube. Là, c'est du très bon contenu varié. Ça, c'est très important là, parce que les podcasts, souvent, ils s'éparpillent dans des niches. T'sais. Par exemple, il y a présentement 3 millions de podcasts sur Commander. On a fait le tour. Mais Magic, c'est chic. Écoute, j'ai écouté récemment, le plus récemment que j'ai écouté, c'est votre série sur les pires noms de Magic.
Oui.
Ben oui, j'ai écouté ça, je viens juste de l'écouter. C'est capoté, les animations. Les gars,
Là, c'est incroyable.
Oui.
Vous en avez fait plusieurs en plus. Puis c'est les noms, le Magic en français, c'est toujours un peu plus.
Ouais.
Ça ajoute une touche d'absurde. Puis j'aime aussi vos épisodes sur le lore que vous avez fait, là, les faits ou fictions.
Yes.
Et bien sûr, pour ceux qui sont qui se foutent des histoires sur les cartes et qui ne s'intéressent qu'à la mathématique du jeu, là, vous avez fait beaucoup de reviews sur les sets. Entre autres, je vais avancer juste un peu. On a ici le Conquérant de la Garenne du Roi Telet, qui est la traduction française de Ren Vanquisher. C'est ça, j'encourage les gens à aller sur Magic, c'est chic, c'est vraiment bien. Cool. Vous étiez-vous saucé un peu dans le terrain basique? Ça fait un an et demi là, que j'essaie de vous avoir sur notre show, mais à cause du décalage horaire, on ne réussissait jamais à s'entendre sur un moment. Là. C'est enfin, ça l'arrive.
Ben oui, Jason, ah ouais, on voit tes deux mains, il y en a une qui est basse. Là. Ouais, c'est ça, OK. Hey, c'est où vous les pognez, vos animations? C'est capoté, vous avez de la recherche en esti. Si vous allez dans les jeux, dans les clips que Wizard ont fait...
Alors, on va les prendre à travers le net. Ça n'a pas été simple au début, effectivement. Mais maintenant, à force de faire des vidéos, donc on en sort une par semaine, chaque vendredi. Effectivement, on a collecté pas mal de fonds et au bout d'un moment, je me suis dit, je vais les organiser. Et ouais, j'ai un dossier en fait fond où ils sont tous répartis par extension, ensuite par personnage ou par couleur selon les besoins pour que je m'y retrouve quand je monte les épisodes d'histoire parce que c'est vrai que Magic, ça doit être des dizaines de milliers d'illustrations maintenant et ça n'arrête jamais quoi.
Il y a 15 000 impressionnant. Est-ce que des fois vous travaillez vos clips ou les affaires comme ça parce que des fois il y a comme juste des petits mouvements en background ou des affaires comme ça. Est-ce que c'est vous qui travaillez ça?
Alors, la plupart des fonds qui sont animés, non, ce n'est pas nous. On les prend directement souvent des trailers officiels de Wizards of the Coast.
Ben, bravo pour le travail de recherche. En tout cas, ça rend la chose vraiment... Puis en plus, la voix est comme soothing, relaxante. Là. Ça, avez-vous déjà essayé de parler avec des chants de baleines en arrière pour que les gens puissent s'endormir tranquillement? Je veux pas que c'est plate, c'est relaxant. C'est le bon ton pour parler de ça, j'ai l'impression.
Il y a une chaîne anglophone qui existe, c'est une fille qui a l'air très jeune qui fait ça en récitant les cartes, les nouvelles cartes d'un set en mode vraiment ASMR, ça s'appelle, je pense.
Ah ouais.
Elle fait ça. Et aussi en lisant, je crois, les règles, des règles, livres entiers de règles Magic en mode ASMR, c'est totalement improbable. Ouais, c'est très très bizarre. Mais non, on n'a pas lancé de format vidéo ASMR pour l'instant.
Bon, encore. Puis sinon... Encore. Peut-être qu'on peut parler de vos goûts un petit peu plus personnels, là, parce que vous êtes quand même assez variés. Ça parle d'un petit peu tous les Planeswalkers et tout. Mais toi, mettons, Anthony, quelle couleur que tu préfères dans le jeu?
Ah là là, c'est dur à dire. Je pense que...
Une face de blanc à bleu, check bien.
la nostalgie de Magic, ce que ça m'inspire, c'est souvent du vert quand même, parce que j'ai commencé avec le vert, hein, comme un bon débutant, on va dire, dans la cour de récréation, avec les elfes et les
guilles. Ah!
Et oui,
faut que tu fasses attention avec Tommy, il est encore traumatisé de du sauna des elfes.
C'est vrai.
Moi je suis raciste. J'haïs les elfes, c'est comme ça.
Peut traumatiser.
J'ai des bons arguments.
Les combos d'elfes, là, tu sais, tu untaps ton Llanowar Elf pour faire les loops de mana infinie, là, Tommy, il y a beaucoup de difficultés avec ça. C'est un running gag à terrain basique qu'on n'aime pas les elfes. Mais c'est ça. Puis ça fait en sorte que dès que des gens vont jouer contre Tommy, ben, ils font exprès pour amener des decks d'elfes.
Ah, c'est bien ça.
On a du vert chez Anthony. Alvar, toi, c'est quoi ta couleur préférée?
Alors, avant toute chose, je suis un peu d'accord sur les elfes. J'avoue, je suis pas très team elf, mais pas que dans Magic d'ailleurs. Je trouve qu'ils se la pètent un peu.
Exactement.
Ils sont un peu suprémacistes et tout. C'est une idéologie un peu douteuse.
Si tu vis pendant des milliers d'années et que les autres espèces sentientes autour ne vivent pas pendant des milliers d'années, pas mal toute la marde qui arrive sur la Terre is on you. Tu sais, voilà. T'as bien beau t'enfermer dans ta forêt puis faire comme si t'avais le droit de jouer de la harpe à la journée longue, là. Mais à un moment donné, il faut que t'assumes, tu te lèves puis tu vas régler des problèmes, câlisse.
On est totalement d'accord. Alors que les vampires, pareil, ils ont une durée de vie exceptionnelle, mais ils se la pètent pas autant, quoi.
Non, mais les vampires, ils s'en foutent, ils sont selfish puis ils sont dans l'hédonisme. Ils n'ont rien à foutre que le monde brûle en dehors. Donc, tu sais, ils ont une bonne excuse de. C'est pas à cause de nous que ça va mal, tu sais.
Ben, c'est ça. Mais t'as pas encore dit c'était quoi tes couleurs préférées, Alvan?
Franchement, c'est très dur parce que, en fait, c'est un peu pour ça que j'aime Magic. C'est parce qu'il y a 5 couleurs avec 5 styles de jeu et j'adore switcher. J'ai jamais eu un focus précis sur une couleur, même si après j'ai des alliances de couleurs un peu de cœur qui vont plus se rapprocher des guildes de Ravnica avec la guilde de Groul qui est vraiment.
Comment vous dites ça en France?
Groul?
Groul?
Grul.
J'aime ça.
Ah ouais, vous dites vrai, comment, vous?
Nous, on dit Grul.
Grul.
Écoute, l'important, c'est qu'on se comprenne.
Dis-moi les autres noms de guildes pour le fun.
Alors, il y a Azorius, Dimir.
Ah, ça, c'est nous. Ouais, ouais.
Celestia.
Ah, ouais.
Rakdos.
Ouais.
Il y a beaucoup de différences, non?
Non, à date, il y a juste le Grul qu'on s'entend pas.
OK. Bon, s'il y a que ça, ça va.
Comment vous dites Gideon?
Gideon. Gideon, ouais. Plutôt Gideon.
J'adore ça.
Nous autres, on Huguin. Est tous pollués par l'anglais qui est juste à côté. Là, on caste un spell. Est-ce que vous lancez un sort ou vous castez un spell?
Non, il y a beaucoup d'anglicisme dans Magic pour le coup. Ouais. Parce que, encore une fois, comme on le disait, il n'y a pas eu tant de contenu que ça sur Magic en français. Et je crois qu'il y a pas mal d'anglicismes qui ont été adoptés à un moment où, en gros, la norme pour les pros, c'était d'aller sur Channel Fireball, TCG Player, ce genre de choses. Il y a un moment, pour les pros, il n'y avait vraiment plus rien en français, hein, quasi.
Oui, est-ce que vos cartes sont en français en France?
Oui, oui, on a les cartes traduites en français. On en a aussi beaucoup en anglais, quand même.
Parce que
au-delà de Magic, je pense que l'anglais est comme devenu un petit peu la langue unofficial du fantasy, là, dans le sens que dès qu'il y a des elfes, puis il y a de la magie, puis du fantastique, les gens aiment bien mieux sortir une flame sword qu'une épée enflammée. J'ai l'impression que ça date même peut-être d'avant Magic, mes années de Donjons et Dragons, peut-être. Il faut dire que nous, au Québec, il n'y a pas vraiment de barrière entre l'anglais et le français. Là. Le slang se développe comme ça. Mais si tu sors une carte de Magic en français, les gens vont dire « C'était quoi ça en anglais, donc? » Puis coup qu'on va dire « C'est quoi en anglais? » Ils vont faire « Ah, OK, c'est pas le mantel de Brumerive, c'était... » c'est ça, ça sonne tout un petit peu comme étranger, surtout le Magic, enfin, encore, ça, c'est sûr et certain. J'ai vu que vous utilisiez des cartes en français puis en anglais aussi dans vos clips. C'est-tu un hasard comme ça ou parce que...
Alors, c'est pas un hasard, c'est surtout une raison technique parce que, en fait, sur Scryfall, par exemple, tu vas prendre ta carte en anglais, meilleur site pour trouver les cartes, on est d'accord,
oui.
Jason.
Oh oui.
Mais tu, en fait, les cartes sont scalées en anglais, donc avec une très bonne résolution, et donc tu peux zoomer à fond pour tes vidéos, c'est parfait. Mais par contre, toutes les cartes en français sont en qualité médiocre. Donc on les met quand on a vraiment besoin de faire des vidéos qui sont très accessibles, comme les présentations des extensions, où là il y a pas mal de nouveaux joueurs qui regardent, etc. Donc on préfère les mettre en français. Mais quand on a vraiment le choix sur les faits ou fictions, par exemple, où le texte sur les cartes importe pas parce qu'on parle vraiment de l'histoire, là on va les mettre en anglais parce que le visuel sera tout simplement de meilleure qualité, en fait.
Oh, ouais, parce que là, comme une carte comme Rabbit Blood Sucker en anglais, en français elle devient la suceuse de sang enragé.
Écoute, ouais. Tout se suce, hein, dans la vie.
Mais c'est poétique, parfois.
J'adore les traductions. Là. J'aime bien le fait que sur les vieilles cartes en français... Est-ce que les nouvelles cartes, ils disent encore pioche?
Oui, pioche.
C'est vrai qu'on va souvent dire draw, surtout quand les joueurs un peu compétitifs parlent. C'est jeu draw.
Jeu draw, jeu land, je caste une vrasse. Alors vrasse, je crois que c'est le pire anglicisme que j'ai jamais entendu. Je sais même pas si vous voyez ce que c'est.
Non.
Une brasse, une wrath. Tu vois, tu fais colère de Dieu, wrath of God.
Oui, wrath of God. Yeah.
Voilà, nous, on a francisé au maximum. On dit je vrasse. Je vrasse le board, je vrasse.
Ah, c'est pas le mot qui a été changé, c'est entre vous, c'est votre lingo entre vous. Là.
C'est les Français qui disent ça.
Tu vois, War's Creature a été changé pour crisseur de guerre.
Ah,
ça, je sais pas si vous êtes familier avec les insultes québécoises.
Ouais, si.
Donc, un crisseur de guerre. Nous, au Québec, on utilise l'expression Chris, qui est en signe de Jésus. C'est crisseur de guerre, ça veut dire que tu lui fous une bataille.
Il y a une carte comme ça aussi qui en français est achetée par des joueurs anglophones. C'est, je sais plus, c'est une espèce de contresort, je crois, en bleu, qui en français c'est retard. Donc les Anglais la lisent retard.
Ah oui.
Je sais plus laquelle c'est exactement.
Je pense que c'est dans les vieux sets de Ravnica là. Mais je sais laquelle tu parles.
Hey, peut-être une dernière question, aller vers la carte de la semaine que vous avez choisie conjointement, j'ai entendu dire. On a parlé d'un lapin, juste avant que le show commence, puis c'est une histoire qui m'a vraiment touché, puis j'aimerais ça que tu me parles encore de ton lapin, s'il te plaît, Antoine.
Je peux te parler de mon lapin qui s'appelle Châtaigne. Et donc, mes parents l'ont retrouvé abandonné dans une petite jardinière. Il est tout petit comme ça et c'était un lapin de garenne. Donc vraiment, les lapins que tu es censé croiser dans les forêts, qui deviennent très très gros et surtout qui ont peur de l'être humain, qui s'enfuient comme pas possible. Et moi, mon lapin, après avoir passé 4-5 ans dans l'appartement de mes parents, bon, moi j'étais très allergique déjà, mais ça c'est pas le problème. Mais surtout, il est devenu immense, très gros et il suivait ma mère partout dans l'appartement quand elle se levait, quand elle prenait son petit déjeuner, etc. Donc, c'était le lapin de garenne domestique.
Est-ce que ce lapin-là, y a-tu déjà mangé des cartes de Magic qui étaient à toi?
Non, parce que moi, j'avais déjà quitté la maison de mes parents à ce moment-là. Ouais. Je les ai sauvés.
Hey, merci beaucoup, Anthony. Merci, Alvar. On va aller vers le segment de la carte.
J'ai un chien qui a déjà bouffé un de mes decks, Tommy. Il s'appelait Pokey dans les années 90. À un moment donné, je suis arrivé chez nous, puis toutes les cartes étaient à terre avec des traces dedans. Puis j'ai encore ces cartes-là, puis tu sais, mon chien, il est mort à un moment donné de maladie, là, ça m'a fait beaucoup de peine. Puis chaque fois que je repasse sur ces cartes-là, quand je passe à travers ma collection, ça me fait un petit...
Il t'a laissé un memento plein de balles.
C'est beau.
Ouais.
C'est bio. Hey, donc, on s'en va à la carte de la semaine, une présentation de l'Abyss, notre magasin affilié. 44,90 Jean Talon Est. Vous pouvez aller au métro Saint-Michel, puis marcher un petit peu. Donc, on écoute le Beat à Bone, puis on va encore jaser avec les gars de Magic, c'est chic. Beat à Bone! Ben oui, c'est qui l'a choisi? Vous êtes-vous battu? Est-ce qu'il y a eu de la compétition, pis tout?
Ah non, on nous avait dit une chacun.
Ah ben, ça veut dire que ça évite la chicane. On va avoir deux cartes la semaine, cette semaine.
Ouais.
Je pense qu'on devrait être bon pour gauler. Qui c'est qui commence? Allez, faites-nous un rush.
Vas-y, à part.
Au live.
Ok, alors ma carte de la semaine,
ça me va.
C'est le dragon fulgurant.
En anglais, c'est quoi?
Tu peux taper en français sur Skyfall.
Ouais, tu peux.
Ah, Skyfall, il détecte le français. J'ai jamais essayé. Et puis j'utilise ce site-là comme tous les jours.
Fulgurant sans E à la fin.
Ah oui, excuse.
Mais je crois que c'est Lightning Dragon, mais j'ai un doute. Ouais, si, c'est ça.
Le Lightning Dragon, deux colorless, deux rouges pour un dragon 4-4 Flying Echo avec Fire Breathing.
Ouais, donc à l'époque, déjà, les créatures dans Magic, elles n'étaient pas toujours très fortes, comme vous pouvez le constater. Parce qu'elle a certes un bon body, quoi. Pour 4, une 4-4 vol qui peut se booster après pour juste 1, c'est vraiment pas mal. Mais donc, comme tu viens de le dire, elle a l'écho, quoi. On doit payer une deuxième fois son coût à son prochain entretien. Et bon, ça fait quand même un peu mal. Mais le fait est que quand j'étais très jeune, donc c'était en 97, hein, l'épopée d'Urza, il y avait donc une forme de produit qui s'appelait, je sais plus comment ça s'appelait, je vais dire une bêtise, mais en gros c'était une espèce de boîte où dedans il y avait des cartes au hasard avec par exemple 9 incommunes, un peu de terrain, beaucoup de communes et je crois 3 rares. Et sur le dessus du paquet, donc il y avait le dragon fulgurant que je trouvais vraiment de toute beauté. Moi, Ron Spencer, c'était vraiment un de mes illustrateurs préférés dans les débuts du jeu. Enfin, il avait une façon de mettre des couleurs dans ses dessins qui me plaisait beaucoup. Et bref, du coup, je me souviens très bien, c'est un peu une de mes madeleines de Proust de Magic. Quand j'étais enfant, voilà, j'ai vu ce paquet. Je crois que c'était au Cultura à l'époque, c'est un magasin.
C'est une sorte de starter dans le fond.
Ouais, c'est ça, je crois que c'était un starter exactement. Et du coup, j'ai acheté le paquet et j'étais vraiment très enjaillé d'ouvrir un dragon fulgurant dedans. Et j'ai ouvert et j'ai pas du tout eu de dragon fulgurant dedans. J'étais très déçu. Quand j'étais petit, je me souviens vraiment de ma déception encore. Et à la place, j'ai eu deux rares, donc je me souviens plus trop, et j'ai eu un terrain qui fait un mana vert pour chaque créature que tu contrôles.
Ah, oh, c'est pas bon ça. Gaia's Cradle.
Et voilà, du coup,
est-ce, est-ce que tu l'as échangé pour 25 cents?
Non, il est là à la caméra.
Ça vaut aujourd'hui 634 US.
Et pour la petite anecdote, donc après, je me suis vengé grâce à la possibilité d'acheter des cartes à l'unité quand j'ai eu un portefeuille un peu plus adulte et l'accès aux boutiques de cartes spécialisées. Et donc, voilà, je l'ai mis juste derrière, en fait.
Oh.
Il est là aussi, Dragon Fugueur. Il est toujours chez moi dans un blister avec les deux cartes. Voilà.
Hey, ben c'est vraiment une belle histoire dans ton passé. Ça a commencé comme... bien, puis là, il y a eu un accro, mais là, ça finit bien au final. T'es heureux.
Oui, ça finit très bien.
J'aime beaucoup ça comme carte de la semaine, qu'on n'aille pas nécessairement vers une carte super forte.
Mais donc, tu la joues en Commander, t'as dû trouver des decks pour la jouer dedans. Hein.
Alors, c'est une très bonne question. C'est là où je suis vraiment dégoûté que le dragon fulgurant soit si nul.
Je pense que c'est un des pires dragons, honnêtement.
Ouais, carrément. En fait, j'ai un jeu, figure-toi, où je veux mettre tous les dragons à 4. C'est Sylvia et... Et j'ai oublié le nom du dragon qui va avec, mais c'est un partner chevalier dragon
de
Battle Bond. Oui. J'allais dire Korvold, mais c'est pas Korvold, c'est un autre avec un nom qui ressemble.
C'est pas Korvold. Je vais trouver, continuer à discuter.
Ouais, voilà. Et bref, du coup, vu que Sylvia elle coûte 3 et elle donne la double initiative à tous les dragons, je veux jouer tous les dragons à 4 là-dedans. Et je peux même pas jouer le dragon fulgurant, parce que même si c'est un dragon à 4, devoir repayer 4 derrière, c'est juste atroce. Tu peux remonter un tout petit peu, il y était...
C'est quoi son nom?
C'est Sylvia, mais attends, remonte un peu, le partenaire, il était juste au-dessus. Voilà, c'est Korvath.
Ah, Korvath, ouais, ça ressemble un peu, hein?
Ouais.
Korvath, Bright Flame, 5 colorless, un rouge pour un 3-4. Flying, haste, les chevaliers que tu contrôles ont flying. Fait que dans le fond, c'est ça, il embarque sur son dos les... les dragons, puis
ils vivent de chevaliers. Qu'ils vont pas inventer.
Puis l'autre, c'est la carte, elle vient avec Sylvia Brightspear, 2 colorless, un blanc pour un 2-2 Human Knight légendaire. Double Strike, puis les dragons que ton équipe, parce que Battle Bond, je rappelle, c'est un format de troll à deux têtes. Comme, vous appelez ça troll à deux têtes en France aussi?
Tout à fait. Oui.
Ah, ici, ils disent Two-Headed Giant.
Ouais, tout à fait. D'ailleurs, puisqu'on parle des différences un peu entre les langues dans Magic, pour vous répondre aussi tout à l'heure, il y a des éditions quand même qui ne sont pas traduites en français. C'était le cas de Battle Mode, en l'occurrence.
Oui.
Voilà. Wow, c'est un petit peu cheapette, ça, de faire ça.
C'est très arbitraire, mais ça arrive pour des produits où on imagine qu'ils pensent avoir moins de potentiel, donc ils veulent mettre sans doute moins d'argent dedans, on sait pas trop.
Mais comme Conspire.
J'espère qu'ils ne traduisent pas en allemand, juste pour comme faire chier les francophones.
Là, non, tu super gentil. Hey, as-tu déjà réussi à mettre un chevalier sur ton Lightning Dragon?
Ben oui, pourquoi pas. Hein.
Hey, mais ben on pourrait, mais non.
Avec Anthony de sa carte de la semaine, maintenant qu'on a fait le tour de celle de Alvar. Vas-y Anthony, on t'écoute.
Alors moi, c'est une histoire qui est beaucoup plus simple et straightforward, malheureusement. Mais ma carte de la semaine, c'est Défense du cœur de la forêt. Defense of the Heart, en anglais. Pareil, c'est un petit peu la même époque, hein, avec,
carrément,
avec la Urza's Legacy. Alors non, c'est pas ça.
C'est
tu
pas
peux
ça?
Taper Defense... Tu vas la Defense. Trouver, je pense.
J'ai mal compris le nom de ta excuse.
Non, je t'en prie, c'est
Defense
moi.
Of the Heart. Ah, oh, ok, oui.
Exactement. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette carte, déjà.
3 colorless, un vert, enchantement à ton upkeep. Un ou de tes adversaires qui contrôlent... ça fait comme un balance, dans le fond, c'est qui contrôle...
Non, en fait, tu la joues, ensuite, pendant ton upkeep, donc au début de ton prochain tour, si un de tes adversaires à la table contrôle 3 créatures ou plus... Tu sacrifies cet enchantement et tu vas chercher 2 créatures dans ton deck et tu les mets en jeu.
Puis ça, voilà. Ça tient pas compte de tes créatures. Là. C'est pas 3 créatures de plus que toi. C'est juste
non.
Si l'adversaire a 3 créatures, va chercher
exactement.
Ton Emrakul puis ton autre petit gros chunk puis tu peux rire de l'autre puis insulter sa mère. C'est
exactement.
Vraiment solide, ça. C'est capoté.
T'as tout compris.
Exactement.
Ouais, c'est un Staples de DH. Il est vraiment très très fort.
Et ce que j'adore avec cette carte, c'est qu'elle est pas spécialement connue quand même. Et
moi, c'est la première fois que je la vois, là.
Voilà, et quand tu la joues, ça fait toujours son petit effet. Les gens ont eu la même réaction que vous. Ils lisent la carte, ils disent « Attends, mais c'est quoi? Je connais pas. » Et puis après, ils font « Ah ouais, ok, 2 créatures. » Et donc, ils ont tout un tour pour s'arranger pour pas que quelqu'un contrôle 3 créatures ou plus. Donc, ça fait toujours son petit effet. Et toi, tu vas chercher derrière les meilleures cartes de ton deck, hein, créature. Moi, je vous avais dit que j'étais vert dans mon cœur. Donc, ouais. Voilà, ça, ouais, c'est la carte parfaite.
Les deux, vous avez pris des cartes, des sets d'Urza, qui est super fort de jadis. Vous êtes-vous concerné avant, ça a donné comme ça?
Pas du tout.
Même pas, mais je pense qu'il y a une grosse partie de nostalgie, ouais.
Savez-vous c'est quoi l'histoire de Defense of the Earth?
Alors, l'histoire, je ne m'en rappelle plus exactement, mais en gros, sur la carte, on voit Multani, donc le maraud sorcier, on l'appelle en français, qui est un des protecteurs, en fait, de la forêt de Dominaria.
Et Yavimaya, je crois, plus précisément.
Yavimaya.
Ouais, exactement, là, qui est une des forêts de Dominaria. Et donc, Multani, c'est un personnage qui est très vieux et qui est revenu sur Dominaria aussi dans l'extension qui est sortie il y a quelques années, là.
Il a subi un lifting, ouais. Je trouve qu'il aurait pu garder le vieux. Il a comme changé de face, fait que c'est comme si c'était plus le même. C'est bon, je l'ai dans Urza Legacy. Il avait.
Et d'ailleurs, cette carte Multani Maraud Sorcier, elle m'obsédait quand j'étais petit parce que j'avais un de mes copains qui l'a joué dans la cour de récré. Et on lisait, on disait, attends, mais il est étoile, il peut pas être la cible de sort ou de capacité. Et il est hyper fort, sa force et le nombre de cartes dans les mains de tous les joueurs. À l'époque, tu vois, c'était pour nous, c'était incroyable. Les grosses cartes vertes comme ça, puis au final, elle se fait bloquer par un écureuil et il se passe rien du tout, mais. Voilà, hein. On faisait avec ce qu'on avait à l'époque.
C'est parce que cette carte-là, faut que tu mets un rencard dessus, qui est aussi une carte qu'on voit Multani.
Tout à fait.
Sur rencard, c'est l'aura qui est pour un vert qui donne trample à ta créature.
Et +2/+0, et qui revient dans ta main quand elle va au graveyard.
Oui, tout à fait. Donc, on voit Multani fâché. Multani, dans l'histoire, c'est l'espèce d'avatar élémental de la forêt de Yavimaya.
Il aurait besoin de consulter pour essayer d'avoir un deuil qui a de l'allure.
Il est comme traumatisé du fait que Urza avait détruit Dominaria dans Antiquities, là, qui a fait exploser le Silex, qui est le logo de notre podcast. Vous l'avez peut-être remarqué, là, le Golgothian Silex.
Je vois très bien.
Urza fait. Je sais pas si on voit ça souvent dans les films. Là, Urza, il se dit bon, pour combattre les Phyrexiens, j'ai besoin de tous les alliés possibles. Fait qu'il se rend dans la forêt de Yavimaya et essaie de convaincre Multani de joindre son alliance. Et au début, Multani est en crise et il l'enferme dans un arbre. c'est la carte Rancor, hein, le flavor text, ça dit Hatred Outlive the Hateful. Comment ils l'ont traduit en français pour le fun?
Tu l'as pas.
C'est rancœur.
Rancœur.
Bon, peu importe. Mais un jour, il va falloir qu'on se fait une série. Avez-vous fait des épisodes sur le Urza Saga à date?
En fait, on a fait un épisode qui retrace toute l'histoire de Dominaria. Et on a fait ça avant la sortie de l'extension qui s'appelle Dominaria. Donc, on est parti de Antiquities, comme tu as dit, jusqu'à avant Dominaria.
Il va falloir que je l'écoute.
Au courant. Là, Jason est un petit peu avant de trop développer. On vient de parler des cartes de la semaine. On remercie beaucoup Bond. On remercie nos invités. On écoute du beat à Bond puis on s'en va en dernière partie d'émission. Vous êtes en forme, les gars? Alvar, Anthony, ça va
bien? Carrément.
Et parfait. Top. Fait qu'on va avoir besoin de vous autres en deuxième partie d'émission. Beat à Bond. Comment vous choisissez les sujets desquels vous parlez? Là, on vient de deviner que, mettons, il y a Dominaria qui s'en est. On va faire du rattrapage sur Dominaria pour mettre toute la classe à jour. Ça a été quelques sujets d'émission. Mais là, mettons, comme vous dites, vous faites une vidéo par semaine. Qui décide? Qu'est-ce qui s'en vient?
Bah, on fait déjà beaucoup par rapport à l'actualité, hein, mine de rien. Ne serait-ce que par rapport à l'histoire. Par exemple, si on sait qu'il y a Terros 2 qui va sortir là début 2020, on a fait du coup un épisode spécial sur Elspeth parce qu'on savait qu'elle allait revenir. Voilà, mais mine de rien, on n'a pas trop le temps de réfléchir à des envies, on va dire... plus profonde, l'actualité nous porte vachement la plupart du temps. Le rythme des sorties est quand même.
Ouais, on a le même problème aussi là.
Ouais. Et des fois, c'est un peu dur de suivre, honnêtement, mais bon, voilà.
j'étais convaincu en 2021 qu'on allait avoir un retour sur la New Phyrexia. Puis là, ils nous ont foutu à la place Forgotten Realms puis Innistrad. T'imagines à quel point il va falloir faire du rattrapage?
Ouais, ça fait quand même pas mal de fois qu'on attend un peu, on va dire, le retour des Phyrexians. Ils nous l'avaient au final un peu teasé avec Dominaria. Là, ils nous l'ont reteasé à la fin de Terros 2 avec, on va dire,
la lance d'Elspeth.
Ouais, et surtout l'arc de fin avec Ashiok, qui comprend qui sont les Phyrexians en rentrant un peu dans les rêves de l'espèce.
On a eu les mêmes conclusions de notre côté. Ça veut dire que le message, la graine est plantée, on pourrait dire.
Ouais, c'est ça. Mais quand est-ce qu'elle va éclore? Bon, bah ça a eux de voir. Mais en tout cas, clairement, pour 2021, ils ont d'autres plans. Il y a quand même des nouveaux méchants aussi qui se profilent. Le panel de méchants s'élargit quand même vraiment beaucoup.
Ben, ils ont un temps assez bolasse, fait que ça l'a fait un gros vide. Hein?
Ouais, qui reviendra forcément de toute façon.
Bah oui, c'est sûr, ils l'ont mis dans un tiroir pour.
Voilà.
Dans le futur. Il y a personne qui meurt jamais de manière définitive. Hein.
C'est quoi vos spéculations jusqu'à maintenant là? Ça s'en va où selon vous?
Pour l'instant, avant de laisser Tony répondre, moi je trouve que c'est un peu épars. J'ai un peu du mal à voir comment ils vont de nouveau faire au moins. Vraiment que quelques arcs narratifs qui vont se rediriger vers un seul arc comme a pu être celui des Sentinelles avec Bolas. Là, on a vraiment eu telle intrigue sur Ikoria, telle intrigue sur Terros, même si, bon, voilà, il y avait un peu des directions.
Excuse-moi, c'est quoi le mot que t'as dit avant Bolas?
L'arc narratif des Sentinelles, la Gatewatch.
Ça, pour nos auditeurs au Québec, là, c'est le Gatewatch. En France, c'est les Sentinelles.
Ouais, c'est vrai que j'aurais
dû. Est-ce que Planeswalker a été traduit en Sentinelle ou ils disent marcheur de plan?
Alors, il y a très longtemps, c'était Arpenteur. Oh!
Ça, j'aimais.
C'était bien.
Ouais, c'était un excellent mot, moi, que j'aime beaucoup. D'ailleurs, je me souviens, j'ai lu un livre après où il y a, en gros, on suit un arpenteur pendant très longtemps. C'est le château de Kafka. Et à chaque fois, je l'imaginais en Planeswalker. C'était très perturbant, mais bon.
Ça, c'est le méchant dans Final Fantasy VI.
j'ai pas joué au 6, mais c'est possible.
Ah, ok.
Et bref, du coup, ouais, ils ont changé après quand les cartes vraiment de Planeswalker sont sorties. Ils se sont dit, maintenant les Arpenteurs, c'est les Planeswalker à l'anglophone aussi, même pour l'Europe, et c'est comme ça quoi.
C'est Planeswalker. Ouais. Ils l'ont pas traduit.
Ah, non, tout à fait. Ils ont arrêté de le traduire.
C'est poche.
Et ouais, du coup, donc pour.
Fait que c'est réglé. En avez-vous un préféré, Planeswalker? Peut-être un arc narratif, un que vous aimeriez avoir comme pote à appeler pour aller boire une bière, ce genre d'affaires-là?
Bah ouais, je vais laisser Tony répondre maintenant, du coup.
Moi, j'ai toujours bien aimé Hugin. Alors, du coup, comment vous le prononcez, vous?
Moi, je dis Hugin.
Hugin?
Hugin.
Puis Bourboloop, qui est sur notre show, il dit Ugin.
Ugin, ah ouais, ok.
J'aime bien Ugin quand même.
Ugin, c'est pas mal. Ouais, c'est très français pour le goût. Ugin.
Un produit du terroir, effectivement.
Ouais. On a un pour Ugin avec Anthony, puis toi, Alvar.
Franchement, le choix est très difficile. Je m'attendais pas trop à cette question.
On est des intervieweurs professionnels.
En tout cas, une chose est sûre, il y en a un que j'aimais pas. Je vais un peu contrôler la question. Et c'était Gideon. Et je suis très content qu'il y soit passé. Je l'avais un peu prédit d'ailleurs il y a très très longtemps.
Et, là, c'est beige. Voilà. Hein. Il est comme gentil, puis c'est tout.
Il est trop gentil.
Il était trop blanc, trop musclé, trop.
Il est indestructible. C'est son seul point.
Indestructible. Ouais, c'était trop lisse. Manquait vraiment de relief.
Le E-Man de Magic, c'est Gideon.
Et je pense que Jenny peut très bien avoir ce statut-là et pour le coup.
Plus charismatique.
Ah, tu vois, moi j'aime pas tout ça, les furries dans mes jeux. Là. C'est un gros toutou. Mon fils l'aime bien. Hein.
Est-ce que vous pensez que Jenny va chez le dentiste des fois?
C'est une très bonne question, mais.
Alvar, toi qui as un chat, est-ce que tu l'emmènes chez le dentiste? Déjà.
Non, par contre, je lui coupe les griffes.
Ah.
C'est le plus important, je dirais, plus que les crocs.
Ouais, mais ton chat, c'est pas le diplomate en chef des Sentinelles, là.
Non. En plus, mon chat a un nom lié à Magic, mais c'est pas Jenny.
Je t'ai coupé la parole tantôt. T'étais en train de développer sur. Là, t'avais dit, tu sais, ils ont bouclé l'arc des Sentinelles hebdomadaires.
Du coup, c'est vrai que j'ai pas fini là-dessus.
Et là, ça s'en va dans toutes les directions.
Voilà, là, on a vraiment un monde, une intrigue, et c'est un peu étrange. Pour l'instant, on sait pas trop où on va. Il y a encore donc de nouveaux profils de méchants qui arrivent avec Casmina. Je sais pas si vous avez vu l'info là, ça date vraiment d'il y a très récemment.
Ça, c'est pour avec Harry Potter.
Ouais, je pense vraiment qu'elle va être dans Strix 7.
Ouais. Juste parce qu'on ne l'a jamais révélé sur Terrain Basique, fait que je vais te laisser l'honneur. Vas-y. Ça, on l'a jamais mentionné, donc si tu peux décrire juste la carte de Planeswalker de War of the Spark, puis...
Carrément, enfin je vais pas décrire sa carte, je vais décrire le personnage pour le coup, oui. Mais c'est un Planeswalker qui est arrivé sur Avnica pour regarder Planeswalker comme plein d'autres, parce qu'elle a été attirée par Bolas, et donc on la connaissait pas, elle, avant, un peu comme la Vagabonde. Ouais. Et pour le coup, elle est assez mystérieuse jusqu'ici, parce que très peu d'infos ont filtré sur elle. On sait juste que c'est une sorcière rattachée au mana bleu, qui pondait des sorciers, d'ailleurs des tokens sorciers sur sa carte. Et en fait, on a su là, il y a peu, grâce à un livre qui va sortir, qui s'appelle, je crois, Legends, qui décrit en fait un peu toutes les figures emblématiques du monde de Magic, page par page. Je crois qu'on n'a pas eu le livre encore, mais à mon avis, ils ont un profil...
Ça, c'est le livre de Jay and Ellie. Là.
Je ne saurais pas dire.
C'est Legend of Magic.
Ouais, c'est ça, c'est ça. Et donc, à mon avis, une page égale un résumé de leur histoire à chacun. Et Casmina a le droit, en tout cas, à un petit bout de texte qui dit qu'en fait, c'est la leader d'un ordre assez ancien et secret de Planeswalker, un peu genre une cabale, qui a en fait pour but de recruter d'autres Planeswalkers, mais en les prenant, on va dire, dès le plus jeune âge, avant que leur étincelle ne se soit déclenchée.
Comme les Spark, ouais.
Exactement.
Ouais, on va se venir comme un train, hein? Puis là, là, au mois de mars, on s'en va. C'est au mois de mars, je pense, sur Strixhaven.
Je crois.
On avait parlé dans notre épisode 96. C'est un.
C'est le setting Harry Potter.
Le setting Harry Potter. Tommy, il n'y a pas ça, le setting Harry Potter. Casmina énigmatique mentor. Moi, ce qui m'avait intrigué quand ils l'ont sorti dans War of the Spark, c'est que son costume avait aucune référence par rapport à d'autres plans qu'on avait déjà vus.
Même son staff, tu ne l'as pas reconnu ailleurs. Lui ouais. C'est ça, hein? Lui, mettons, là, tu lui montes un dessin d'un bâton, là, puis il va faire ça. J'ai vu ça en 2003 sur la carte en background. Il s'en va checker. C'est épeurant des fois parler avec Jason. Il faut pas le regarder dans les yeux trop.
Le livre que tu as mentionné, là, Legend of Magic, ça, c'est intéressant comme histoire parce que ça a été écrit par Jay and Ellie. Puis Jay and Ellie, c'était un gars qui... un joueur de Magic, là, Nowhere, qui était surtout sur... comment ça s'appelle? Tumblr?
Mm-hmm. Ouais.
Et lui collectionnait, c'est un peu comme je me suis beaucoup inspiré de lui justement pour faire mes histoires là, de terrain basique. C'est que lui faisait ça, il checkait toutes les vieilles cartes, puis c'est Magic the Gathering Legend, puis il fouillait les tréfonds des cartes, puis il écrivait sur son Tumblr le lore qu'il y avait autour de chaque carte, puis c'est lui notamment qui avait théorisé que le Ravenman serait peut-être l'Imdul. Et je ne sais pas si vous aviez vu ça passer. Donc, il s'est mis à théoriser plein d'histoires sur son Tumblr. Puis là, à un moment donné, je pense qu'il est en train de découvrir trop de trucs parce que Wizard of the Coast l'a engagé comme employé. Puis là, soudainement, les théories sur que le Ravenman et Liliana seraient reliés à l'Imdul, ça a disparu d'Internet. Fait que peut-être qu'il y avait quelque chose là. Man.
Là, c'est ça. Deep State, là,
là c'est cool parce que dans le fond, il va publier je pense que c'est le premier. Ça va être le premier encyclopédie sur le lore de Magic. Ça sort au mois de. C'est déjà sorti ou. Oui, je pense que c'est déjà sorti. Oui, c'est sorti au mois de juillet. Magic the Gathering Legend. Allez acheter ça si vous voulez un livre de table à café. Là, ça vaut la peine.
Ben, arrêtez pas d'écouter Magic, c'est chic, puis Terrain Basique, pareil, si vous allez faire ça. peut-être parler un petit peu de... Voyons, il y a une affaire que je voulais vous demander. On a parlé de la carte de la semaine, on a parlé de vos couleurs. Quel type de Magic vous jouez? Êtes-vous plutôt à jouer à Commander ou à jouer sur Magic Arena? Comment vous vivez votre Magic, surtout présentement, en temps de pandémie? Hein? Tu peux pas aller insulter le monde chez eux directement en lui envoyant ton gros monstre Trample. Faut que tu insultes à distance. En envoyant ton monstre Trample à distance, c'est un petit peu différent.
Je crois qu'on est d'accord, Alvar, qu'on est plutôt des joueurs papier, nous. Donc, on joue à Arena pour poursuivre quand même un petit peu le metagame, le standard, etc. Mais on est surtout des joueurs papier et avec de la bière, voilà, et du Commander.
Mais vous n'avez pas découvert le Magic par webcam?
Alors, moi, j'en ai fait un petit peu, Alvar, peut-être pas, mais j'ai fait un peu de Spell Table.
Uh-huh.
Qui est donc le logiciel là, qui a été racheté par Wizards récemment et qui marche plutôt bien.
Oh, oui, c'est ce que j'utilise aussi.
Ouais, donc c'était pas mal, mais bon, ça vaut pas une table ronde avec de la bière, ça c'est sûr.
Jamais, jamais. Là moi présentement, je fais des tournois par webcam avec la bière, mais tu sais, je suis seul à boire la bière chez nous et à regarder mon adversaire sur mon écran d'ordinateur, mais je trouve ça mieux qu'Arena, là.
Ben voilà, oui, effectivement, Arena, ça devient un petit peu bizarre des fois, mais quel type vous jouez? T'es-tu comme Legacy Open que n'importe quoi, sauf Balance, parce que personne n'aime Balance, là, mais... c'est quoi le type que vous jouez?
Alors, Alvar, tu veux peut-être parler des débats qu'on a en interne avec notre groupe de jeu pour la banlist?
Oh oui, c'est ça qu'on veut savoir.
Ouais, alors, bon, on joue beaucoup en commandeur, donc, multi. Et pour le coup, on a beaucoup de mal, forcément, à équilibrer un peu les decks, tout ça. Donc, on a mis au point un peu une banlist. Et c'est vrai que bon, c'est pas simple hein, d'ériger une banlist entre amis, déjà. Un jour, j'aimerais beaucoup la partager à la communauté. Mais c'est toujours un peu touchy. Mais en tout cas, ça se fera un jour, je pense. Clairement, elle est là, elle est prête. Et elle commence à avoir atteint une forme finale.
Il y a combien de cartes dessus?
Il y en a beaucoup, je pourrais plus dire exactement, parce que ça fait longtemps que je ne me suis pas penché, mais il y en a...
Est-ce qu'il y a balance?
Oui, il y a balance pour le coup. C'est sûr qu'il y a balance. En fait, après, c'est plus des types de cartes qu'il y a. Déjà, on reprend un peu des banlists déjà existantes. Bon, il y a la banliste classique de Wizards, déjà, elle est liée d'office, on va dire. Et après, on rajoute, on va dire, toutes les cartes qui vont détruire les terrains, qui font que...
Ah ouais,
va pas être supplémentaire.
Pas d'Armageddon?
Non, pas d'Armageddon.
Ah.
Et pourtant, on l'a joué, on l'a éprouvé la carte et on s'est dit, en fait, faut mieux l'écarter, quoi.
Piège-pont. Beaucoup la Land Destroy ici. Là.
Ouais, ça rend les parties beaucoup plus longues, en fait, et du coup, on préfère viser une certaine philosophie de jeu, en fait, avec cette banlist et les terrains et tout ce qui va un peu trop paralyser la partie pour au moins 5 tours, on va dire. 5 tours, quand en plus on est 5 ou 6, c'est quand même assez long. Donc voilà, ce genre de cartes ont été...
Dans le but d'avoir un maximum de plaisir.
Exactement. Voilà.
Et j'ai changé de groupe un peu de DH totalement parce que moi j'ai déménagé en fait. Avant j'étais à Paris, là maintenant je suis dans le nord de la France, donc j'ai découvert un nouveau groupe de joueurs. Je leur ai proposé cette banlist et a priori ça marche très bien. Donc,
y a-t-il des particularités régionales dans la façon dont les Français jouent à Magic?
Oui,
parce que toi dans le fond t'es un Parisien qui se retrouve
dans
le nord,
ouais.
C'est en Flandre?
Non, c'est pas loin. La Flandre, c'est... la frontière belge, c'est une ville qui s'appelle Lille. Je sais pas si vous parlez.
Ouais, c'est ça.
Mais c'est
ils ont plein
cool.
de préjugés envers les Parisiens, eux, non?
Non.
Tout le monde a des préjugés envers les Parisiens.
Oui, c'est vrai.
Non, pour le coup, à Lille, c'est très, très cool. Enfin, c'est une ville que j'aime beaucoup. Je suis très heureux de m'y être installé. Mais bon.
Il y a personne qui peut avoir un sourire de champion comme tu nous offres depuis tantôt, puis pas être heureux dans la vie.
Ben ouais.
C'est sûr.
Ça. Ça bon, à Paris, je souriais pas.
Hey, j'ai des questions, parce qu'on commence à arriver au bout. J'ai des questions un petit peu par rapport qu'il faut absolument que je me sorte de la tête. Est-ce que vous connaissez les Pop-Tarts?
Les Pop-Tarts, ouais, je vois très bien. Moi, je connais pas.
Non, asti, vive le Pop-Tart libre. Et l'autre, c'est est-ce que c'est vrai que le cheval de Napoléon, il était blanc? Pas au courant.
Il avait l'air blanc, non, sur les différentes peintures de Napoléon, etc. Après, est-ce que c'était vrai? Je sais pas.
Ça me va. Parce que c'est comme une joke ici. Ma mère, elle m'a eu dans le temps. Elle dit, tu dis rapidement là, de quelle couleur qui était le cheval blanc de Napoléon. Puis là, le monde fait,
ouais.
Mais là, tu dis dans la réponse, tu fais dans la question. En tout cas, c'était comme un running gag. C'est posé. Puis, tu sais, je veux dire, ça veut pas dire que je le demanderai pas à d'autres personnes. On fera nos enquêtes. Puis là, on vient de parler de Commander. C'est quoi ton Commander présentement, Alvar?
Voilà, j'en ai plein. Mais il y en a un, donc je suis très fier parce que je l'ai fait un peu de zéro quand il est sorti. C'était à l'occasion de Terros par-delà la mort. C'est Tassa, la deuxième version de Tassa.
Celle qui blink?
Ouais, Basréenne, je crois.
Tassa Deep Dwelling. Ouais. À la fin de ton tour, tu exiles un permanent et une créature et tu la ramènes en jeu. Donc, tu fais trigger son Enter the Battlefield.
Tout à fait. Et ça, c'est une première grosse synergie avec ce dieu-là. Et l'autre grosse synergie, c'est de prendre des créatures adverses, même juste pour le tour, et de les blinker, en fait, et elles vont revenir en jeu sous notre contrôle. Il y a bien écrit, hein, si vous regardez, « Under your control » à la fin de texte.
Fait que là, tu peux la voler.
Oh, ça, c'est bon,
hey, ça. C'est bon, ça. C'est bon.
Et il y a,
c'est bon, ça.
Il y a plein de cartes en bleu, mais
fait
vraiment
que,
pas
que tu utilises ton Control Magic, tu vas chercher sa créature, après ça, tu blinks le contrôle. Tu blinks la créature. Si tu as un spell, tu peux changer le Control Magic de target. Il y en a un dans Legend là, qui fait ça, c'est un instant. Puis dans le fond, tu peux aller chercher facilement deux créatures. Là.
Tout à fait. Mais après, t'en as plein des cartes comme ça. Il y en a vraiment très improbables qui font que c'est un effet que jusqu'à la fin du tour. Un peu comme on peut avoir en rouge.
Ouais.
Mais t'en as plein. Là, par exemple, si tu veux essayer l'ordonnatrice des vivants.
Oh, ordonnatrice des vivants. Je pense qu'il y a Ray of Control qui fait un petit peu comme...
Ouais, Ray of Control fait ça aussi.
Le spell de prendre le contrôle d'un
fait.
Joueur.
T'es Overtaker, c'est ça?
Donc tu vois ça, pour le coup, en gros, pour 4... Tu défausses une carte et tu prends le contrôle d'une bête, quoi.
Oh, jamais qu'à
distance. Avec ta en plus, c'est-tu.
En instant, ouais, c'est fun.
De rien. Anthony, toi, ton commander, ces temps-ci?
Alors moi, pareil, il y a un commander que j'ai monté un peu de toutes pièces. C'est la nouvelle version de Shen, Chainers, qui est donc rouge et noir et qui... ouais, voilà, c'est le deuxième.
Inner Nightmare Adept. C'est celui-là, ouais.
Oui, oui, c'est celui-là. Je voulais te laisser lire la carte, si tu veux.
Oh, excuse, deux colorless, un noir, un rouge pour un 3-2. Tu discartes une carte. Tu peux ensuite caster une créature de ton graveyard ce tour-ci. Tu peux seulement le faire une fois par tour. Et son deuxième habilité, c'est chaque fois qu'un non-token créature rentre sur le battlefield sous ton contrôle, si tu ne l'as pas casté de ta main, il a haste. Ça, c'est une carte que Tommy aime beaucoup. Tommy aime beaucoup jouer avec des Unearth et des trucs comme ça. Là.
Ah oui. On joue
vas-y, Anthony.
Nous autres aussi tout le temps, plus Legacy comme casual. Mais quand tu joues à plus que deux joueurs, le pouvoir haste permet de surprendre un petit peu tout le monde. Ça devient plus indispensable. Mais là, je vois discard a card, you may cast a creature card from your graveyard this turn. Ça veut pas dire que tu peux caster ça pendant le tour de l'autre.
Là. Non, tu peux pas la caster pendant le tour de l'autre. Mais par contre, ça te permet... Enfin, la carte fait tout, en fait. C'est que si les créatures sont dans ta main, t'as ton commandeur en jeu, bah, tu peux juste te défausser de la carte, tu la joues tout de suite, elle a la célérité, t'attaques avec un titan rouge, un titan noir, tu poses 4 tokens d'un coup dans le même tour, et voilà, là, on rigole.
Après, je reprécise, mais en vrai, tu pourrais caster pendant le tour adverse, hein. Si on lit vraiment, c'est
flash,
tu peux défausser une carte quand tu veux, et voilà, caster une carte de créature avec le flash depuis ton cimetière, et tu peux le faire une fois par tour, même les tours adverses. Mais en rouge et noir, il n'y a pas vraiment de bonne créature avec le flash. Mais il n'empêche que le deck de Tony fait du porno, des fois, il est vraiment très très excellent.
De toute beauté. Ben moi je pense qu'on est rendu à la fin de l'émission. J'espère qu'on va se reparler dans le futur, puis que invitez-nous sur votre show ou on va vous réinviter sur le nôtre pour parler un petit peu de ce qui s'en vient ou le reste.
Ça vient de faire un match webcam multiplayer à un moment donné, le Québec contre la France.
Ben oui, ça c'est parfait aussi. En tout cas, merci beaucoup Anthony et Alvard. Je vous souhaite de le mieux possible. Longue vie à Magic, c'est chic. Très bon travail. J'en ai écouté toute la journée avant de venir vous parler. J'adore beaucoup le ton. Encore Jason l'a dit tantôt, mais allez vous abonner à leur page Facebook. Et ben voilà, écoutez les clips. Hein, de la très bonne job. Merci beaucoup à vous deux.
Merci beaucoup pour l'accueil, gars. Vraiment.
Merci, hey, c'était un plaisir. Longue vie à Terrain Basique.
Ah ben, merci. On va travailler là-dessus. C'est share, like, abonne-toi. Hein? C'est comme ça que ça marche. Toi, Jason, t'as-tu fini? T'as-tu d'autres questions?
Non, moi, je suis repu, là.
Il est repu. Parfait. Bon, ben, merci encore à nos invités de Magic, c'est chic, Anthony et Alvar. Merci à tous nos collaborateurs sur la page Facebook qui fabriquent des mimes et le reste. Merci à Martin qui fait le montage, à Bone qui fait les beats, à Spotify de nous hoster nos shows. Merci à Pierre.
On a notre chaîne YouTube aussi.
Jamais venir parler. Et merci aussi à tous les fans de Terrain Basique et de Magic the Gathering et de Magic c'est chic. C'est autour de quoi que je cours. On a de la merch sur le site. Mon nom, c'est Tommy Godette, puis je vous souhaite à tous et à toutes d'être le moins manascrew possible.
Salut tout le monde!
Hey, merci beaucoup, c'est super gentil!
Merci!
Ben, merci à vous, messieurs. Je vous souhaite le mieux possible pour vrai. C'est la pandémie, c'est moche.
Comment on dit manascrew en France?
Nous, on dit manades, en fait, souvent chant. Je suis en manades. Ou je suis en des, tout court aussi, on peut dire.
Okay.
membre de la famille H2O Web Media.